Imprévisible, décidément. En retirant en octobre les troupes américaines du nord de la Syrie, Donald Trump se montre encore une fois très peu diplomate.
On ne va plus se battre. On ne voulait pas se battre de toute façon. Si la Syrie veut se battre pour récupérer ses terres, qu'elle voit cela avec la Turquie. Cela fait des centaines d'années qu'ils se battent. C'est tout plein de sable là-bas, qu'ils s'amusent dans cette étendue de sable.
Avec ce retrait, Donald Trump laisse les mains libres au président turc Recep Tayyip Erdogan. Sans attendre, celui-ci lance une vaste offensive pour éloigner ce qu'il assimile à une menace kurde à ses frontières. De quoi déstabiliser encore plus cet Orient compliqué. De quoi provoquer aussi l'ire d'Emmanuel Macron qui accuse l'OTAN de rester les bras croisés.
Ce qu'on est en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'OTAN.
La réponse d'Erdogan ne se fait pas attendre. C'est Emmanuel Macron qui est en état de mort cérébrale, rétorque-t-il dans un discours. De plus en plus, les relations internationales prennent une tournure personnelle, passionnelle et parfois illisible. À l'image de Trump, encore une fois, qui, après avoir menacé le leader nord-coréen du feu et de la fureur, l'a rencontré chaleureusement par deux fois cette année, changement de ton radical.
Je pense qu'un avenir radieux vous attend, vous et votre pays. Vous êtes un grand dirigeant. J'ai hâte de voir tout cela advenir. Hâte aussi de vous aider à construire cet avenir.
Comme les dirigeants, les peuples aussi sont devenus imprévisibles. 2019 aura été l'année de toutes les éruptions. De Santiago du Chili à Beyrouth, en passant par Hong Kong ou Alger, les contestataires réclament la liberté, la fin de la corruption, la dignité. Ces mouvements sans leader peuvent-ils peser sur la marche du monde ?
Bertrand Badi, cette révolte des peuples, cette révolte sociale, tous azimuts, à Hong Kong, à Alger, à Bagdad, en Haïti, en France aussi, à La Paz, sur tous les continents, elle marque selon vous l'an 2 de la mondialisation ?
C'est ce que j'ai plaidé, c'est ce que je continue à plaider. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison de dire tous les peuples. Il n'y a pas d'espace dans le monde qui soit à l'abri ou en dehors, appelez ça comme vous voulez, de ce mouvement qui, par ailleurs, a beaucoup de points communs.
Lesquels ?
Alors, il y a un point commun qui est très important, c'est le contexte. C'est-à-dire, on s'insère dans un contexte nouveau que je ne connaissais pas quand j'étais jeune, qui est le contexte de la mondialisation. Les gens de ma génération ont vécu deux fois, dans un temps international et maintenant dans un temps mondial. Eh bien, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que les sociétés sont allées plus vite pour s'adapter au temps mondial que les dirigeants politiques. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, une homologie de slogans. Regardez le fameux système. Ce système, on en parle partout. Dans les rues d'Alger, il faut changer le système. Non, ce n'est pas une nouvelle élection. C'est un changement de système qui est nécessaire. Dans les rues de Beyrouth, il faut changer le système. Dans les rues de Bagdad, mais aussi les Gilets jaunes n'arrêtaient pas de dire « il faut changer le système ». Regardez aussi cet essor assez incroyable de la thématique dégagiste. C'est-à-dire qu'il faut absolument changer le personnel politique. Bref, jamais, jamais dans l'histoire de l'humanité, il y a eu une telle homologie thématique et contextuelle.
Oui, mais il y a aussi une contradiction qui semble apparaître dans tous ces mouvements. C'est qu'à la fois, il y a un souci égalitaire, dégagiste et égalitaire, et en même temps, il y a une demande autoritaire qu'on voit parfois dans les urnes avec des personnalités qui sont élues et qui sont élues pour leur tempérament d'autorité. Alors, comment on surmonte cette contradiction ?
Alors, je vois ce que vous voulez dire, je le comprends, mais je crois qu'il faut être prudent, parce que derrière autoritaire, il y a tellement de facettes différentes qu'il faut peut-être faire un tri.
Ou direct, peut-être.
Il y a d'abord, je dirais, l'autoritarisme de la colère. On adhère au modèle autoritaire à partir du moment où on est en colère contre le système et qu'on ne le voit pas changer et se transformer. Et donc le réflexe, c'est de dire, il nous faudrait un homme fort, ou une femme forte, mais ça ne se dit pas tellement, un homme fort pour pouvoir effectivement changer les choses et les faire bouger. Ça, c'est un premier élément. Mais je crois que fondamentalement, quand vous disiez contradiction, j'en voyais une autre, qui n'en est pas vraiment une, comme toutes les contradictions. Vous savez, il n'y a que des paradoxes apparents. Le paradoxe apparent, c'est que toutes ces sociétés s'inscrivent dans le temps mondial et en même temps, on les sent apeurées face à la mondialisation. Et ça, ces deux éléments sont très importants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les peuples, les individus que nous sommes, prennent conscience, comme je disais tout à l'heure, peut-être plus vite encore que les politiques, de la réalité de ce temps mondial, portée par la révolution des communications, portée par la mondialisation des imaginaires. On voit tout, tout le monde, partout. Mais ils en ont peur, parce qu'ils se demandent s'ils sont véritablement protégés, contre ce décor entièrement nouveau qu'ils ne connaissaient pas, qu'on ne leur a pas appris à l'école, qu'on ne leur a pas appris dans leur famille. Et résultat, nous sommes là confrontés à un des paramètres peut-être les plus sérieux tel qu'il apparaît dans notre année 2019. Le monde a peur. La peur structure. La peur explique.
Et rassemble. Et ça rassemble.
Voilà. Elle rassemble. Elle explique bien des comportements et bien des choix politiques également. Et elle explique surtout ce qu'il y a derrière tout cela, qui est un formidable retour de l'identitarisme. On sait qu'on est dans le monde, mais justement, pour se protéger, eh bien, repli identitaire. On n'a jamais vu, dans les rues de Paris, pendant l'année 2019, on n'a jamais vu autant de drapeaux tricolores.
De drapeaux bretons. Quand et de drapeaux bretons.
Bretons et corses. C'était. Et Corse, mais autrefois, quand j'étais jeune, et vous admettrez qu'il y a très peu de temps, voyait...
Vous êtes un poulet de printemps.
Ne riez pas. Lorsqu'il était question de contestation, on voyait que des drapeaux rouges. Ouais. Là, maintenant, c'est le drapeau tricolore. Regardez à Beyrouth, vous ne voyez que le drapeau libanais. Que, regardez Alger, vous voyez que des drapeaux algériens. Et ça, c'est signe de quelque chose, c'est-à-dire de cette dialectique qui véritablement anime la vie internationale aujourd'hui entre une mondialité qu'on découvre et un repli identitaire qu'un certain nombre d'entrepreneurs plus ou moins malins vous encouragent à radicaliser.
Alors, il y a des identités nationales, il y a des peuples et des États-nations, mais dans ce panorama géopolitique, il y a aussi des forces qui sont non étatiques, comme par exemple les groupes terroristes, les groupes djihadistes.
Les milices armées.
Oui, alors si je voulais vous taquiner, je dirais, moi, le mot géopolitique, je le raye des cadres, c'est fini, le monde n'est plus géo, il n'est plus politique.
Bon. Alors, quoi,
et pour les raisons alors, que...
Mais il est quoi ?
Eh bien, je dirais qu'il est global, c'est nouveau. Et il n'y a plus de relations internationales au sens classique du terme, mais il y a des relations intersociales. Ce dont nous parlons depuis un certain temps, depuis le début de l'émission, c'est des relations intersociales, animées par les mouvements sociaux. Le social, c'est devenu le dur, le politique, le mou, alors qu'autrefois, c'était le contraire. Et ce que vous venez de dire va tout à fait dans ce sens, c'est-à-dire les acteurs qui sont les plus déterminants dans la construction de l'agenda international sont plus des acteurs étatiques. Vous citiez tout à l'heure les djihadistes, les...
L'organisation islamique, des milices voilà. armées...
Mais on peut élargir considérablement. Il y a d'abord le rôle de plus en plus important des acteurs économiques, le rôle des acteurs religieux, et on peut être un acteur religieux sans être djihadiste, et quantité d'acteurs. Regardez dans le cas du Sahel, quels sont les principaux acteurs ? Pas ces malheureux 5 chefs d'État du G5 Sahel, c'est tous ces groupes extraordinairement difficiles à suivre, à comprendre, qui s'allient un jour, font scission le lendemain, s'opposent le surlendemain. Un jeu extraordinairement complexe qui obéit à des stratégies micro-individuelles. C'est le triomphe, en quelque sorte, du big man. Voilà encore un mot anglais, hein, c'est-à-dire celui qui s'impose par son charisme dans son petit espace local, mais aussi de chefs tribaux, mais aussi de prêcheurs, mais aussi d'acteurs religieux de tout acabit. Bref, nous sommes maintenant face à un agenda international qui n'est plus fabriqué, comme au Congrès de Vienne, par la rencontre des chefs d'État ou de gouvernement, malgré le G7, mais vous voyez ce qu'il donne, le G7, n'est-ce pas ? Nous sommes face à un espace mondial où tout le monde joue, y compris l'individu anonyme.
L'Amérique de Donald Trump a lâché les Kurdes le 13 septembre. Elle n'a pas répliqué quand son allié saoudien a été attaqué par l'Iran. Alors, à qui profite ce retrait international ? Est-ce que c'est Rouhani ? Est-ce que c'est Poutine ? Est-ce que c'est Erdogan ?
Alors, d'abord, il faut comprendre une chose, c'est que l'un des éléments les plus dynamiques de cette région, comme de beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est la volonté d'un certain nombre de puissances régionales potentielles de se faire reconnaître comme telles. C'est-à-dire, on est dans un monde de statut. C'est-à-dire, c'est pas tellement la puissance qui compte, puisque celle-ci est en quelque sorte démonétisée. Ce qui compte, c'est le statut. C'est-à-dire d'être reconnu, d'être important, d'avoir le droit de participer à la discussion, au débat. C'est le jeu iranien. Et effectivement, la différence entre Poutine et les présidents des États-Unis, en particulier Trump, c'est que Poutine a toujours su miser sur ce désir. Et il a construit son retour au Moyen-Orient sur un triangle qui incluait Moscou, Ankara, Téhéran, c'est-à-dire les deux puissances régionales qui ont une véritable capacité de faire et de défaire au Moyen-Orient. Donc le premier vainqueur, c'est Poutine. Poutine qui a compris comment il fallait faire quand on est une vieille puissance pour survivre. alors que les États-Unis, d'abord assez fortement enquistés derrière l'État d'Israël, mais d'autre part ayant une peur viscérale de voir naître des puissances régionales au Moyen-Orient, ont toujours joué l'exclusion. Regardez ce qui reste à Trump, ce qui reste aux États-Unis, c'est presque un bout d'orteil dans le Moyen-Orient et guerre plus. Alors, maintenant, il y a une deuxième figure. Cette deuxième figure, c'est cette politique d'exclusion forcenée de l'Iran menée par les États-Unis. Mmh. Qui a conduit à quoi? Alors, à quelque chose qui va exactement en sens contraire. C'est-à-dire, autant exister comme puissance régionale donne aux partisans de l'ouverture, le président Rouhani, des cartes nouvelles, autant l'exclusion, le boycott de l'Iran par les États-Unis et cette pression insoutenable, pression économique notamment, fait que là, le grand vainqueur, c'est Khamenei. Oui. Quelquefois, je me demande même si Khamenei n'avait pas fait un cadeau à Trump.
Mais l'un des vainqueurs du désengagement américain dans la région, est-ce que ce n'est pas aussi avant tout Bachar el-Assad qui a su profiter de ça, déjà quand Barack Obama n'est pas intervenu malgré le franchissement de la ligne rouge, et après, quand Trump a poursuivi cette stratégie du désengagement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on ne parle plus tellement de ce qui se passe en Syrie, et en quelque sorte, Assad a été... réhabilité, il n'est plus aussi dangereux que comme on en parlait à l'époque.
Alors, vous avez raison, mais vous avez raison, effectivement, Poutine n'est pas le seul gagnant, hein, tant s'en faut, de la situation actuelle. C'est vrai que Bachar el-Assad a sauvé un trône que l'on considérait comme perdu.
Le peuple syrien, c'est le pendant de ma question. Les perdants, c'est le peuple syrien.
Alors, oui, mais ce n'est pas seulement le peuple syrien. C'est-à-dire que c'est vrai que Bachar a sauvé son trône, mais en même temps, on est extraordinairement loin d'une solution à la question syrienne. Et ça, c'est la limite du succès et de Bachar et de Poutine. Comment vont-ils faire pour pérenniser ce qui est pour l'instant un coup de force? Et quelle force? Ça ne suffit pas pour créer un ordre international. Vous avez eu l'amabilité de citer mon livre, L'hégémonie. Qu'est-ce que c'est qu'un hégémone? C'est celui qui crée de l'ordre. Or, on en est très loin. C'est-à-dire, ce qu'a fait Poutine, ce qu'a fait Bachar, ce qu'ont fait éventuellement d'autres dictateurs, c'est sauver leur ordre, mais ce n'est pas créer un ordre. Alors... Et derrière tout ça, se pose une énorme question qui est à quoi peut ressembler un Moyen-Orient post-hégémonique?
Autre question à propos d'hégémone, l'OTAN. Partagez-vous le diagnostic d'Emmanuel Macron sur l'OTAN en mort cérébrale? L'OTAN dont les États-Unis étaient l'hégémone, d'une certaine manière.
Totalement. Il faut voir ce qu'est l'OTAN. L'OTAN, c'est une alliance. Une alliance, dans l'histoire longue des relations internationales, c'est rare. Ce que nous connaissons dans l'histoire des relations internationales, dans le temps long, ce sont des coalitions. C'est-à-dire des États qui disent, dans le contexte actuel, on a intérêt à passer accord avec tel ou tel pour pouvoir constituer une coalition gagnante. L'alliance, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. L'alliance, ça veut dire, on se marie durablement, c'est-à-dire on pérennise un bloc, c'est-à-dire qu'on se retrouve autour d'un certain nombre de valeurs et face à une cible, à un ennemi. Bref, on est commun, exactement. Bref, c'était la situation idéale pour cela au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec l'apparition de la bipolarité. Ce contexte a complètement disparu. Et ce que disait le débat tout à l'heure était très clair et très net. C'est-à-dire, il n'y a plus d'alliance durable. La caractéristique principale du Moyen-Orient, c'est que l'ami de mon ami n'est pas mon ami, l'ennemi de mon ennemi n'est pas mon ami, l'ennemi de mon ami n'est pas mon ennemi. Je ne sais pas si vous me suivez.
Oui, mais je vous suis.
Effectivement, et l'allié d'un jour, ou le coalisé d'un jour, devient l'ennemi du lendemain.
C'est très clair. Bertrand Badie, quand on évoque la Chine, notamment sa politique commerciale agressive, tout de suite on accole le mot d'hégémonie. Or, vous dites, la Chine n'est pas hégémonique, elle ne se vit pas comme messianique, elle veut des vassaux, pas des clones.
Oui, c'est-à-dire que à nouveau, dans l'idée d'hégémonie, il y a quantité d'éléments qu'on ne retrouve pas actuellement dans la politique chinoise. Et notamment cette fusion entre le politique, le militaire, l'économique, c'est-à-dire l'hégémone contrôle tout, toutes les manettes, en quelque sorte. Ce qui est intéressant, c'est de laisser parler les dirigeants chinois, mais pas seulement les dirigeants chinois, les